Les municipales, est-ce un combat d'étiquettes? Élément de réponse avec Édouard Philippe et François Bayrou à l'Université d'été de La République en Marche. Une nouvelle manifestation à Hong Kong, le mouvement citoyen appelle les États-Unis à l'aide. Donald Trump annonce la fin des négociations avec les talibans alors qu'elles étaient sur le point d'aboutir. Explication de Nabila Hamel. Enfin, reportage à Madagascar où le pape François a rendu visite au père Pedro. 4 jours après l'annonce par les autorités hongkongaises du retrait du projet de loi sur les extraditions en Chine, les militants pro-démocratie et citoyens révulsés par la répression policière luttent encore et toujours pour la défense des libertés publiques et ambitionnent cette fois de recevoir le soutien des États-Unis. Stéphane Lagarde les a suivis jusqu'aux abords de la représentation diplomatique américaine.
Des slogans en anglais, se battre pour la démocratie aux côtés de Hong Kong et une forêt de main levée, les 5 doigts bien tendus, 5 revendications, pas une de moins, scandent les manifestants au milieu des tours de verre du quartier Central, le quartier de la finance au cœur de Hong Kong. Sur les avenues, les passerelles de béton, une marée humaine avance en direction du consulat américain. Au-delà du retrait de la loi d'extradition, c'est maintenant des libertés, des citoyens dont il s'agit, affirment les opposants qui en appellent directement aux États-Unis. Lo, étudiante, 24 ans.
Nous sommes là pour sauver Hong Kong et nous espérons que le gouvernement américain adoptera une loi pour aider les manifestants hongkongais. C'est très important car cela pourrait changer le cours des choses.
Parmi la foule, des jeunes en t-shirt noir et masqués qui s'en prennent aux vitres d'une station de métro sur le parcours, mais aussi des familles. Certaines ont amené un drapeau américain, d'autres un dessin de la statue de la liberté détournée. Elle aussi est habillée d'un t-shirt noir et porte un casque de chantier, symbole de la protestation hongkongaise. Les opposants espèrent que le Congrès aux États-Unis donnera au traité économique liant Hong Kong à Washington une tournure plus politique. Pokémon sur l'épaule, Yena, 12 ans, est venue à la manifestation avec ses parents.
La Chine est trop forte. Elle a beaucoup d'armes et veut faire du mal à Hong Kong. Après, ce sera Taïwan. Nous espérons que les États-Unis nous tendront la main.
Et la fillette de jouer l'air des Misérables, l'un des tubes de cet été de la contestation hongkongaise, sur son lamellophone, son piano à touche, en espérant que le message sera entendu à Washington.
Stéphane Lagarde, à Hong Kong, Washington, auquel les talibans promettent le pire après que Donald Trump a mis fin aux négociations de paix. Un an d'efforts balayé d'un coup de fil alors qu'un accord était, semble-t-il, à la portée des signataires. Nabila Hamel.
Il était en tout cas considéré comme imminent puisque, des pourparlers de Doha, l'on semblait vouloir passer à une étape supérieure, une réunion secrète avec les talibans qui devait se tenir aux États-Unis ce dimanche. Et c'est donc 24 heures avant que Donald Trump a lui-même annoncé qu'il suspendait les négociations. Il évoque la persistance des attentats menés par les insurgés et surtout la mort d'un soldat américain jeudi. Mais pour Karim Pakzad, spécialiste de l'Afghanistan, le président américain faisait face à des résistances au sein même des États-Unis.
On le savait depuis quelques jours que aussi bien le département d'État que le Pentagone ou des anciens diplomates et même des éléments du Congrès exprimaient des réserves vis-à-vis de cet accord. En fait, c'était pas un accord entre les États-Unis et les talibans, c'était un accord entre le président américain et les talibans. Donald Trump a supervisé pendant un an toutes les négociations avec les talibans. Or, on savait que cet accord a été largement au bénéfice des talibans.
Un accord que l'administration Trump voyait au départ comme un moyen de se retirer un peu plus de l'Afghanistan. L'autre argument, censé avoir joué dans ces négociations, était que les talibans s'engageaient à combattre les autres organisations terroristes dans le pays, comme Al-Qaïda et Daesh. Mais ne pas exiger au préalable un cessez-le-feu des talibans serait faire fi des souffrances qu'ils infligent quotidiennement aux Afghans. Voilà certainement pourquoi le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, n'exclut pas cet après-midi une reprise des négociations avec les talibans. Il déclare miser sur un changement d'attitude de leur part.
Merci à vous, Nabila Hamel. C'est désormais une ritournelle. Le pouvoir algérien prône une fois de plus la tenue d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais. Appel réitéré ce dimanche par le président par intérim périmé Abdelkader Ben Salah en remettant le rapport final de l'instance nationale de dialogue, instance ONI par le Irak, le mouvement citoyen. En Russie, des élections locales dans 85 régions avec un point de fixation à Moscou où les partis d'opposition privés de scrutin ont multiplié les manifestations ces derniers mois. A-t-on seulement alors qu'il ait une idée du taux d'abstention et donc de l'impact des mobilisations des opposants au Kremlin? Claude Brouillot nous appelle de Moscou.
Alors, ce que l'on sait déjà pour ce qui concerne Moscou et Saint-Pétersbourg, les deux villes les plus médiatisées, évidemment, concernant ce scrutin, l'une, bien sûr, en raison de son statut de centre du pouvoir et l'autre parce qu'elle est la ville de Vladimir Poutine, c'est que le taux de participation était très faible en milieu d'après-midi dans la capitale russe, avec seulement 12% de votants. Et ce n'est guère mieux à Saint-Pétersbourg, avec seulement 16%. Pas beaucoup d'électeurs non plus à Novosibirsk, par exemple, la grande ville de Sibérie centrale, où cette fois, juste avant la fermeture des bureaux de vote, seulement 19% des électeurs s'étaient déplacés. Ces faibles taux de participation partielle, donc, s'ils se confirment, valideraient en quelque sorte la stratégie d'une partie des opposants, Vladimir Poutine, qui ont appelé à boycotter ces élections locales. Dans une certaine mesure, mais il faut toutefois attendre confirmation, on manque d'indications encore dans d'autres régions qui élisaient leur gouverneur aujourd'hui. Ce qui est important de souligner aussi, c'est le désintérêt croissant des Russes pour la politique au moment où Vladimir Poutine entame sa troisième décennie à la tête du pays. Mais c'est vrai que face à l'absence de véritables représentants de l'opposition, dites en dehors du système, dans ces scrutins, à la fois les partisans du pouvoir et les opposants, faute d'enjeux, ont eu moins de raisons d'aller voter. Enfin, un dernier point, si cette faible participation se confirme notamment à Moscou donc et à Saint-Pétersbourg, elle posera un réel problème de légitimité à celles et ceux qui seront élus en raison évidemment de leur faible représentativité.
Claude Brouillot à Moscou et dans un instant, le commentaire dans Soft Power de François Croquette, ambassadeur de France pour les droits de l'homme. La visite à Madagascar du pape François avec cet après-midi un détour par la cité d'Akamassou, ce qui signifie « bons amis » en malgache. Son fondateur, le père Pedro, argentin comme le pape, a sorti des milliers de personnes de la misère en créant, sur les immondices d'une ancienne décharge, une ville de 25 000 habitants. Star reportage de Bruce de Galzin.
Des enfants qui chantent à tue-tête en frappant des mains dans un gymnase qui ressemble davantage à un hangar. C'est dans une ambiance survoltée que le pape François et le père Pedro, le fondateur d'Akamassou, la cité de l'amitié, ont fait leur entrée. Le père Pedro, qui n'a pas hésité à dénoncer devant le président malgache les responsables de la pauvreté.
Nous avons démontré à Kamassou que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais elle a été créée par l'absence des sensibilités sociales, des dirigeants politiques qui ont oublié et tourné le dos à leur peuple qui les a élus.
Mais ici, c'est la joie qui se lit sur le visage de tous ces enfants. Comme Fanny, elle n'a que 13 ans. Elle est arrivée il y a 6 ans avec sa famille et s'est adressée directement au pape.
Nous sommes en train de vous voir personnellement en direct au milieu de nous. Nous sommes très heureux et nous vous remercions infiniment.
Des cris de joie des 8000 enfants entassés dans ce gymnase et qui ont appris que le père Pedro connaissait bien le pape François.
Père Pedro était mon élève à la faculté de théologie. À lui, plus étudier. Lui, avait l'amour pour le travail.
Le père Pedro préférait le travail aux études. Aujourd'hui, près de 15 000 enfants sont scolarisés grâce à lui.
Reportage de Bruce de Galzin à Madagascar. Les deux épisodes de canicule de l'été dernier en France ont causé la mort de 1435 personnes. Les plus touchés sont les plus de 75 ans, 974 décès. Même si toutes les classes d'âge sont impactées, précise le ministère de la Santé. La République En Marche a phosphoré à Bordeaux ce week-end sur la stratégie à privilégier pour les municipales. Et c'est le Premier ministre Édouard Philippe, toujours pas encarté En Marche, qui est venu clore ce rendez-vous juste après l'intervention du patron du Modem, François Bayrou. À Bordeaux, Rosalie Lafarge.
Ils arrivent ensemble, s'assoient côte à côte et offrent aux photographes et aux caméras de grands sourires et de franches poignées de main. Mais dans son discours, François Bayrou, le président du Modem, ne se prive pas de livrer un message sous forme d'avertissement.
Un maire, ça n'est pas un enjeu partisan, c'est quelque chose d'autre. Un maire, c'est une personnalité, une attention à ses concitoyens, une vision, et ça ne peut pas se résumer à un combat d'étiquette. Si on choisissait de transformer l'élection municipale en élection d'appareil contre appareil, alors on serait sûr de perdre.
Tous les membres du gouvernement croisés dans les allées du campus s'emploient à mettre en avant l'unité, tentent d'effacer, de minimiser les divisions, d'en faire un sujet purement médiatique. Elles sont pourtant là, ces tensions. Et même si Édouard Philippe tente l'humour et les imitations pour jouer la carte de la convivialité.
Je reçois un coup de fil, je décroche.
Bonjour, c'est Alain Juppé.
Le Premier ministre le sait, il ne faudrait effectivement pas que les municipales se transforment en combat politique interne.
On ne vote aux élections municipales jamais pour une étiquette. Jamais. On vote pour une femme ou pour un homme. On vote pour une équipe. On vote pour un projet. Et bien souvent, le vote municipal ne dit rien sur le vote national.
Édouard Philippe profite de la tribune pour faire taire une rumeur. Il ne sera pas candidat à la mairie de Paris. Il apporte un soutien plein et entier à Benjamin Griveaux, investi par La République En Marche, avant d'ajouter « Si je devais un jour me représenter au municipal, je ne vois pas où cela pourrait être ailleurs qu'au Havre ».
La météo de demain lundi, temps marqué par de nouvelles pluies sur le nord-ouest, un temps plus calme ailleurs, il fera très frais le matin, minimale comprise entre 3 et 8 degrés en général, avec un risque de gelée blanche sur le nord-est et le centre. Ainsi se referme cette édition, préparée avec François-Charles Domergue.